OK. Avant tout, y a-tu quelqu'un qui se rappelle c'est quoi de la théologie systématique? Parce que c'est ça ce qu'on fait. Y a-tu quelqu'un? C'est le premier chapitre qu'on a vu, une introduction à la théologie systématique. Y a-tu quelqu'un qui se rappelle c'est quoi? Je vous donne un indice. La théologie, grosso modo, c'est qu'on parle de l'ensemble des doctrines de la Bible, l'ensemble des doctrines chrétiennes. Quand on ajoute un mot après théologie, on parle d'une façon d'étudier la Bible, une manière de le faire. Donc, il y a de la théologie biblique, de la théologie historique, de la théologie apologétique. Et là, nous, on parle de théologie systématique. Puis, il y a le mot « système » dedans. Fait qu'à cette heure, qu'est-ce que c'est la théologie systématique? Es-tu quelqu'un qui s'en souvient? Amen. C'est exactement ça. C'est 10 points. OK. tout simplement, la théologie systématique, la définition la plus simple que j'ai trouvée, c'est on répond à la question « Qu'est-ce que la Bible dit sur tel sujet pour nous aujourd'hui? » Qu'est-ce que toute la Bible dit? Puis on fait ça tous les jours. Les chrétiens, on fait toujours des déclarations théologiques systématiques parce que souvent on dit, la Bible dit que Jésus c'est le seul chemin. Mais quand on dit la Bible dit, on prend l'ensemble de la Bible. On ne dit pas nécessairement, ah, Jean 14 dit que. On fait ça tous les jours. Le problème, c'est que souvent c'est super, qu'est-ce qu'on fait. À d'autres moments, quand on dit la Bible dit, c'est pas complet parce qu'on dit pas tout ce que la Bible dit sur tel sujet. La théologie systématique, c'est donc d'apprendre un sujet particulier, d'aller chercher tous les passages qui sont pertinents à ça. On va pas prendre tous les passages, mais tous les passages qui sont pertinents, puis d'essayer de résumer ça de façon cohérente et simple pour que dans notre tête puis dans notre cœur, on sache que la Bible dit sur tel sujet. Contrairement à la théologie biblique, c'est qu'on va essayer de dire, qu'est-ce que le peuple de Dieu savait sur le Saint-Esprit au temps des juges? Vous voyez, on ne va pas plus loin. On ne va pas aller voir dans Isaïe, on ne va pas aller voir dans Jean, on ne va pas aller voir dans les Épîtres. On va dire, qu'est-ce que les gens savaient sur l'Esprit de Dieu à ce moment-là? Ou qu'est-ce que les gens comprenaient du Messie à ce moment-là? Ou dans tel livre, ou tel auteur quand il écrit? Ça, c'est la théologie biblique. Nous, on fait de la théologie systématique. Donc, c'est bien qu'on sache ça. Donc, on avait vu jusqu'à là, on a fini la doctrine de la parole de Dieu. Donc, on a vu différentes caractéristiques de la parole de Dieu, comme le fait qu'elle est infaillible, qu'elle n'a pas d'erreur. On a vu qu'elle nous a été transmise comme il faut. On a vu qu'elle parle avec autorité. On a vu qu'elle était simple, qu'elle n'était pas compliquée, qu'elle n'était pas obscure dans son entièreté. Des choses comme ça. Là, je pensais qu'on commençait aujourd'hui la doctrine de Dieu. C'est ce que j'ai annoncé. Et j'ai réalisé qu'on avait déjà commencé la doctrine de Dieu avec un chapitre. Et je me suis souvenu que quand on avait commencé, je pense qu'on a fini ça en juin, je m'étais dit, c'est pas une bonne idée de commencer en finissant l'année. Parce que là, quand je revisais les notes, je me suis dit, il y a tout plein de choses que j'aimerais qu'on commence aujourd'hui avec ça, qui est dans le dernier chapitre. Mais là, ce que je vais faire à la place, je vais juste le résumer. Okay? On avait vu, au chapitre 7, la connaissabilité de Dieu, qui répond à la question, est-ce que Dieu peut vraiment être connu? On avait commencé par voir que, clairement, Dieu dans la Bible, il est incompréhensible dans son entièreté. Mais on avait vu que ça nous empêche, ça fait pas qu'on ne peut pas connaître Dieu du tout. En fait, Dieu dans la personne du Christ vient vraiment se faire connaître à nous. Puis même si on ne peut pas comprendre Dieu, on peut réellement le connaître. On avait vu des dangers de ne pas le connaître, puis des super grandes bénédictions de le connaître. Fait que c'est ça qu'on avait vu la dernière fois. Aujourd'hui, si vous êtes au chapitre 8, à la deuxième page 126, je vais me le noter ici tout de suite. Je vais marquer 127 et plus. C'est 127. Mais vous pouvez l'écrire parce que pour les prochaines feuilles, il va être corrigé. C'est 127. Donc, après avoir établi qu'on peut connaître Dieu, puis que Dieu se révèle dans le Christ, par le Saint-Esprit, par les Écritures, aujourd'hui, on va commencer à voir au chapitre 8 le caractère de Dieu. C'est ce qu'on va étudier pour les prochains chapitres, le caractère de Dieu. Puis dans le caractère de Dieu, pour le chapitre 8, on va voir ce qu'on appelle, puis on va définir ça aujourd'hui, mais on va voir les attributs incommunicables de Dieu. Les attributs, je sais que c'est un gros mot, on va l'expliquer, quand un coup vous allez avoir compris, ça ne va pas être si compliqué, mais ce qu'on appelle les attributs incommunicables. Dans le fond, c'est qu'on va répondre dans ce chapitre-là à cette question-là. En quoi Dieu est-il différent de nous par rapport à son caractère, par rapport à qui qu'il est, par rapport à sa nature? En quoi Dieu est différent de nous? J'aimerais ça juste faire une petite prière, puis on va continuer. Merci Seigneur qu'on commence enfin cette étude-là. Comme je t'ai prié au début, je ne veux pas que ça soit intellectuel. Je veux que ça soit toi qui te révèles à nos cœurs, oui par notre esprit, oui par notre intellect, mais que ça ne reste pas là, ô Seigneur. C'est ma prière. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Je voulais, vu que ça fait un bout quand même qu'on n'a pas parlé de la doctrine de Dieu, j'ai écrit une grosse introduction à l'étude du caractère de Dieu, c'est le point A. Puis, je vais lire un peu, puis je vais en parler, puis vous allez voir pourquoi que je trouvais ça important de le faire. Parce que, alors qu'on continue notre étude de la personne de Dieu, il est primordial de se rappeler de quelque chose sans cesse dans notre tête, puis qu'on a vu dans le dernier chapitre, c'est qu'on ne doit pas rabaisser Dieu. Le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui tient nos cœurs en ce moment, à un sujet d'étude. On ne doit pas rabaisser Dieu à un sujet d'étude. J'ai fait ça, malheureusement, trop souvent dans ma vie. Puis j'ai vu des jeunes hommes qui étudient au séminaire faire ça trop souvent dans leur vie. Ou que Dieu, ils peuvent te nommer tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu n'est pas, mais ça reste juste un champ d'étude, une autre étude. Des fois, ils étudient la nature, d'autres fois il étudie Dieu, d'autres fois il étudie la mécanique, d'autres fois il étudie, ça vient juste un autre champ d'études dans sa tête. Puis il faut vraiment se garder de cette erreur-là, j'allais dire fatale, mais qu'on ne doit pas faire. C'est sûr, Dieu veut que les hommes le cherchent. C'est clair ça, on l'a vu la dernière fois. Comme Paul va le prêcher aux Athéniens en Actes 17, 27, il a voulu, en parlant de Dieu, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais la question à répondre, on sait que Dieu veut qu'on le cherche, mais de quelle manière il veut qu'on le cherche? Exactement, c'est ce qui est écrit après. C'est écrit dans Jérémie, Dieu exhorte son peuple, c'est son peuple qui exhorte comme ça. Et Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si, ça c'est une condition, si vous me cherchez de tout votre, c'est quoi le mot qui va là? Cœur, de tout votre cœur. » Puis le cœur, pour les Juifs, je l'ai répété souvent, puis je vais le répéter encore, c'est tout sa vraie personne, tout qui l'est, tout ce que t'es. Autant tes émotions que ta volonté, que tes désirs, tout ce que t'es, Dieu dit, c'est avec ça que je veux que tu me cherches, pas juste avec ta tête. Donc, c'est clair que le désir de Dieu, c'est pas d'être étudié comme un thème, puis d'être étudié comme un sujet. Là. C'est pas comme ça que Dieu veut qu'on l'étudie. Puis, moi, j'ai écrit ça parce que c'est ça que je me répète à chaque fois que j'étudie. Malheur à nous si on sonde le Créateur du ciel et de la terre de cette manière-là. Malheur à nous si on rabaisse lui qui est supposé d'être la fontaine de vie, puis qu'on dit, c'est juste une autre étude. C'est juste un autre thème dans ma vie que j'approfondis. Donc, oui, étudions notre Dieu, mais étudions-le comme le light le plus extraordinaire qui existe, puis comme la personne la plus digne de tout notre respect, puis de toute notre honneur et de toute notre louange. Étudions-le, mais étudions-le comme ça. Étudions-le avec le désir de connaître de manière plus personnelle notre roi et notre sauveur. Donc, on ne veut pas juste savoir qui qu'il est, là, le Créateur. Non, on veut connaître plus personnellement moi, là, le Seigneur dans ma vie. Je veux savoir qui qu'il est, lui qui m'a sauvé, puis lui qui règne, puis lui que je supplie à chaque jour, puis lui que je suis posé de suivre à chaque jour. Connaître lui de façon plus personnelle. Étudions-le, mais étudions-le avec une sainte crainte, un saint tremblement, une sainte admiration devant lui. Sachant qu'un résultat inévitable de connaître plus qui est Dieu va faire en sorte qu'on va connaître davantage aussi notre petitesse, puis notre insignifiance, puis notre corruption par rapport à lui. Mais en même temps, on va connaître davantage son amour et sa grâce et sa bonté pour soulever, changer, puis sauver des gens comme nous. Mais c'est humiliant de connaître Dieu. C'est toujours un mélange entre l'humiliation, puis l'exaltation, puis la réjouissance. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu vois comment tu es vraiment, mais plus tu vois comment il est vraiment, puis comment il te supporte, puis qu'il t'aime. Donc c'est comme un mélange assez incroyable d'émotions. Mais Paul était capable de dire « malheureux, mais se réjouissant toujours ». Paul connaissait les deux, le mélange des deux sentiments dans son cœur, constamment. C'est ça la vie chrétienne. Étudions-le, oui, mais étudions-le pour s'abreuver à la source de tous les biens que notre âme a de besoin. C'est ça qu'on veut connaître. On ne veut pas connaître juste des faits. On veut connaître, OK, c'est lui que je peux aller satisfaire avec. C'est lui qui peut satisfaire mon âme. C'est lui que je peux aller manger comme des mets succulents puis boire de l'eau, m'abreuver. Étudions-le aussi pour que notre confiance en lui croître en proportion de notre connaissance de qui il est vraiment notre Rédempteur. Vous voyez, c'est toutes des choses. On ne veut pas juste l'étudier pour l'étudier, là. Moi, quand je l'étudie, puis j'en ai tellement besoin en ce moment, vous ne savez pas comment je désire plus être saint, plus m'approcher de lui, plus dominer sur mes péchés. Puis pour moi, je priais à genoux ces semaines pour cette étude-là. Pour moi, là, je le prends vraiment comme... je fais pas juste ça parce que je veux qu'on connaisse plus des faits là, dans l'Assemblée chrétienne. Je le fais pas pour ça, pour moi-même. Moi, je le fais parce que je veux davantage être saint, je veux davantage pouvoir me confier en lui, je veux davantage dominer sur mes péchés, puis je désire la même chose pour vous. Fait que c'est comme ça que je veux qu'on approche. Même si aujourd'hui, par exemple, on va parler des choses plus techniques, ça reste ça les buts derrière. Ça reste ça les buts derrière. Le but premier, en fait. Donc, étudions-le afin de combattre aussi les faux raisonnements avec lesquels notre chair, le monde, puis Satan nous assaillent absolument chaque jour, à chaque heure qui passe. C'est une des facettes parce que si on ne se remplit pas de la bonne chose, on va être rempli de d'autres choses. Puis on est constamment rempli de d'autres choses. Puis la seule façon de combattre ça, c'est de nous remplir de la vraie connaissance de Dieu. Donc, on veut augmenter notre foi, on veut augmenter notre piété, on veut augmenter notre réjouissance, notre louange, on veut augmenter notre vraie connaissance de Dieu. C'est ça qu'on veut faire. Puis n'oublions pas ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu a offert en rançon la vie la plus sublime puis la plus précieuse, celle de son Fils unique, afin que les rebelles puis les coupables que nous étions puissent expérimenter l'indescriptible joie puis l'incomparable satisfaction d'être maintenant réconciliés avec lui. Ça, c'est ce que Dieu a absolument tout donné pour nous avoir à lui, OK? Pour qu'on puisse l'expérimenter, lui. Puis ma prière, c'est qu'il nous garde donc, que nos cœurs le cherchent à le connaître d'une manière purement intellectuelle, purement superficielle. Dieu n'a pas donné son Fils pour qu'on l'approche comme un thème puis comme un sujet. Il veut qu'on l'approche comme la personne, une personne, et la personne la plus extraordinaire qui existe. Je trouve que les paroles avec lesquelles James Montgomery Boyce. OK. Ça se coupe au montage. Où tu fais genre un remix, là. Montgomery, tu fais une toune avec ça. Yes. OK. Comment, Sam? Montgomery, je vais le dire comme un français d'abord. C'est un théologien et un chrétien réformé américain qui est surtout reconnu pour avoir parlé de l'inhérence des Écritures et avoir défendu la Bible. Il est mort en 2000. Il débute sa discussion sur son livre là, sur les attributs de Dieu. Il débute la discussion sur les attributs de Dieu comme ça. La connaissance de Dieu ne se produit que lorsque nous connaissons aussi notre besoin spirituel profond. Écoutez ça. La connaissance de Dieu ne se produit, c'est-à-dire qu'on arrive à une vraie connaissance de Dieu seulement lorsque nous reconnaissons aussi notre besoin spirituel profond. Et lorsque nous sommes réceptifs à la gracieuse provision de Dieu pour notre besoin à travers l'œuvre du Christ et l'application de cette œuvre par l'Esprit de Dieu. Ayant établi cette base, nous revenons néanmoins à la question de Dieu lui-même et nous demandons, mais qui est Dieu? Qui est celui qui se révèle dans l'Écriture en la personne de Jésus-Christ et par l'Esprit Saint? Nous pouvons admettre qu'une vraie connaissance de Dieu doit nous changer. Et nous serons peut-être même prêts à changer, mais par où commencer? Puis c'est pour ça qu'on commence une étude sur le caractère de Dieu, parce que c'est par là qu'on commence. Mais j'aimerais relire, pas prévu, mais je m'en souviens d'avoir écrit dans le dernier chapitre quelque chose que Jean Calvin avait écrit, j'avais écrit à la page 120, il faut rechercher ce que Jean Calvin a décrit comme les vrais fruits d'une connaissance de Dieu. Voici ce qui produit quand on cherche puis qu'on connaît vraiment Dieu. Puis il avait écrit ça, dans les années 1500. On voudrait me faire croire que les vieux théologiens sont froids. Il ne suffit pas de savoir de façon confuse qu'il existe un Dieu digne d'être adoré du seul. Si nous ne sommes pas également convaincus que ce Dieu que nous adorons est la fontaine de tous les biens et qu'il n'y a rien à rechercher en dehors de lui. La personne qui connaît Dieu ainsi et sait qu'il gouverne tout, se confie entièrement en sa garde et se place sous sa protection. Comme elle le connaît auteur de tous les biens, dès qu'elle se sent affligée ou démunie, elle recourt à lui dans l'attente de son secours. Comme elle est assurée qu'il est bon et miséricordieux, elle se repose sur lui en toute confiance. Elle ne doute pas qu'en toutes ses adversités, son secours se trouve en sa bonté et en sa clémence. Comme elle le sait être Seigneur et Père, elle estime également qu'il est juste de reconnaître sa supériorité en honorant sa majesté, en le glorifiant et en obéissant à ses commandements. Comme elle le reconnaît être un juste juge qui punit avec une rigueur irréprochable les méfaits et les péchés, elle ne perd pas de vue le tribunal de Dieu et est comme saisie par la crainte de l'offenser. Pourtant, elle ne s'épouvante pas de son jugement au point de se détourner ou de se cacher de lui, même si cela lui apparaissait possible. Elle l'accepte plutôt et le reconnaît juge des méchants et bienfaiteurs des croyants, car c'est à bon droit que Dieu rend aux méchants ce qu'ils ont mérité et accorde aux justes la vie éternelle. Bien plus, cette personne n'évite pas seulement de mal faire par crainte d'une punition. Elle honore Dieu avec humilité comme maître et supérieur parce qu'elle l'aime et le révère comme un père. Bien qu'elle ne craigne pas l'enfer, elle a horreur de l'offenser. Vous voyez, c'est pas qu'on est constamment comme ça, mais c'est ça qu'on veut rechercher en reconnaissant Dieu. C'est ce type de relation-là où qu'on le craint, ou qu'on l'aime, ou qu'on le désire, ou qu'on a confiance en lui, ou qu'on est supporté par lui, qu'on est secouru par lui. Moi, c'est vraiment ça que je désire pour cette étude-là sur Dieu. Des fois, ça va être plus technique, des fois, ça va être moins technique. Comme en ce moment, c'est moins technique. Tantôt, ça va être plus technique. Mais je prie que Dieu nous garde de tomber dans l'intellectualisme ou quelque chose comme ça. Donc, on revient aux notes. J'ai oublié de dire ça au début, mais on veut quand même que ce soit, c'est pas un dimanche matin. Si vous avez des questions, levez la main. Si vous avez des commentaires, vous le dites, eh bien, vous levez la main. Ouais, on va mettre ça au clair. On lève la main. Puis, je fais juste dire oui, puis on peut dire notre commentaire, puis nos questions. C'est bon? Puis, je vous garantis que je ne serai pas capable de répondre à toutes vos questions. C'est bon? Mais je vais me prendre une note, puis si je peux fouiller, puis vous répondre la prochaine fois, je vais le faire. Parfait? Donc, la page 127. Il y a une quelque chose. Aujourd'hui, on ne touchera même pas aux attributs de Dieu, vous allez voir. Comme je l'ai dit, c'est plus technique. J'aimerais ça qu'on regarde comment qu'on va approcher l'étude de Dieu. De quelle manière qu'on va le faire. Parce que vous allez voir, il y a certains dangers qui peuvent nous guetter. Puis j'aimerais ça qu'on soit au clair. C'est comme ça que nous, on va approcher l'étude du caractère de Dieu. On va commencer à parler des attributs de Dieu. C'est la première chose qu'on va commencer la semaine prochaine, Dieu voulant. Point 1, la page 128. C'est écrit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire? Juste le titre. Classification du mot classer. Okay? Quand je vous dis que ça va être plus technique, on va parler de comment on va classer les attributs de Dieu. Parce que puisque Dieu est si élevé, il est si différent de l'homme, puis par conséquent, il est vraiment incompréhensible, dans son entièreté, je parle. On peut comprendre certaines choses de Dieu, mais l'être infini, on ne peut pas le comprendre totalement. À cause de ça, il est difficile d'étudier son caractère sans faire des erreurs sur qui il est vraiment. Puis on va voir pourquoi. Par exemple, la page 129. Contrairement à nous, Dieu n'est pas fait de parties. Les théologiens appellent ça, ça on va le voir plus en détail, mais là je vous le pitch de même. Dieu n'est pas fait de parties. Les théologiens nomment ça quand on parle de cette caractéristique-là de Dieu comme de son unicité ou de sa simplicité. Le monde aime plus unicité parce que simplicité, nous autres dans notre culture, ça veut dire comme quelqu'un est simple d'esprit, il est tarlat ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'est pas ça qu'on veut dire dans la simplicité de Dieu. C'est le contraire de complexe dans le sens de complexe, il y a plusieurs parts. Simple, c'est quelque chose de simple. Il y a une part. Puis Dieu, il n'est pas fait de parties. On va voir plus loin dans le chapitre, comme je vous ai dit, qu'est-ce que ça implique. Mais ce qu'on peut savoir, en grosso modo, c'est que Dieu, il n'est pas fait, par exemple, il n'est pas composé d'un âme, puis d'un corps, d'un bras, puis d'une jambe ou d'un poumon. Dieu, il n'est pas fait de parties comme nous, on est fait de parties. Puis ça va aussi pour son caractère. On étudie le caractère. Puis ça, l'unicité de Dieu, ça va aussi pour son caractère. Par exemple, le mot qui va là, c'est « l'amour n'est pas une partie ». C'est le premier mot que vous avez à remplir. L'amour n'est pas une partie du caractère de Dieu. L'amour, ce n'est pas une partie du caractère de Dieu. Comme si Dieu, quand il montre un autre trait de caractère, il n'est pas amour en même. Il cesse d'être amour pour l'espace d'un moment. Ce n'est pas comme il y a la partie amour quand il agit avec Hein? Puis après ça, quand il juge, hop, il enlève l'amour, puis là, il devient quelque chose. C'est un autre trait de caractère. Comme s'il y avait des parties, plusieurs traits de caractère qui formeraient qui est Dieu. La Bible affirme plutôt, par exemple, en Jean 4:16, que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est pas écrit que Dieu, une partie de Dieu est amour. C'est pas écrit que parfois Dieu est amour. Ça déclare simplement que Dieu est amour, ce qui implique que tout ce que Dieu est dans sa personne, dans sa nature, en tant qu'être divin, est amour. Tout ce que Dieu est tout le temps est amour. Il n'y a pas de moment où que Dieu cesse d'amour pour laisser de place à un autre attribut. Par exemple, oh là, Dieu est juste, donc quand il est juste, fou, il enlève son amour, il cesse d'être amour pour l'espoir. Non, ce n'est pas comme ça que la Bible présente Dieu. Dieu est amour. Quand Dieu se présente comme je suis celui qui est, il veut dire j'existe par moi-même tout le temps, je suis celui que je suis. Quand la Bible dit que Dieu est amour, il dit je suis amour, je suis celui qui est, puis celui qui est constamment amour. De la même manière, on lit dans la Bible que l'Éternel, psaume 11:7, est juste. C'est ça le mot qui va là. La même affaire, l'Éternel est juste. Pas parfois l'Éternel est juste, pas une partie de l'Éternel est juste, mais comme une autre partie de l'Éternel qui n'est pas juste, puis les deux ils se battent ensemble des fois pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec quelqu'un. C'est vraiment pas comme ça que la Bible présente Dieu. Dieu est juste, ce qui nous apprend que la nature même de Dieu est juste dans son entièreté. Tout ce que Dieu est juste. Dieu, il est toujours amour, puis Dieu, il est toujours juste. Ou le dit autrement, on peut dire que l'amour de Dieu est juste ou que la justice de Dieu est aimante. Vous voyez, il n'y a pas de partie en Dieu. Dieu est tout le temps tout ce qui est. Dit autrement, on pourrait dire que Dieu est toujours pleinement tout ce que Dieu est. Vous comprenez? Dieu est toujours pleinement ce que Dieu est. Dieu est Dieu. On va voir ça plus en détail, mais c'est juste pour vous. C'est pourquoi je marque ce point-là tout de suite. Ça va être un point des attributs de Dieu qu'on va voir, sa simplicité. Mais je veux qu'on le voie tout de suite parce que ça peut... C'est ce qui rend des fois, ça va nous montrer qu'est-ce qui peut rendre l'étude de Dieu complexe. Oui?
Ça me fait penser à la Trinité plutôt.
Exact. Comment j'explique? Oui, on va le voir en plus en détail, mais c'est la même chose, c'est ça. C'est la même chose. Souvent, les gens vont décrire Dieu comme étant trois parties qui forment qui est vraiment Dieu. Donc, tu as le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Les trois mis ensemble forment qui est Dieu. Mais la Bible présente totalement une autre image de ça. La Bible présente que le Fils est entièrement et totalement l'Éternel. Le seul être qui existe. La même chose avec l'Esprit Saint. La même chose avec, avec le Père. Donc, ce que les théologiens, puis comment on réussit à définir ça, d'une façon très minimaliste, parce qu'on ne peut pas comprendre l'Éternel, c'est que justement, le Fils est pleinement qui est Dieu, dans son entièreté, puis il n'est pas simplement une partie de Dieu. Parce que Dieu n'est pas divisé. T'sais, le Fils n'est pas présenté comme une partie de l'Éternel. Quand on voit l'Éternel dans Isaïe 6, c'est écrit que Isaïe a une vision de l'Éternel. Jean va nous dire dans son épître qu'il a vu le Fils. Puis ça parle de l'Éternel, pas une partie de l'Éternel. Fait, qu'est-ce qui est dur à comprendre pour nous, c'est comment que le Fils peut être totalement qui est Dieu, mais en même temps pas être le Père. Puis comment le Père peut être totalement qui est Dieu, mais pas être le Saint-Esprit. Mais l'enseignement biblique, c'est que le Fils est pleinement et totalement Dieu. Le Saint-Esprit est totalement et pleinement Dieu. Et le Père est totalement et pleinement Dieu. Mais les uns et les autres ne sont pas la même personne. Mais ça, c'est un mystère. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Comment que. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, notre expérience de la vie, c'est qu'une seule personne peut vivre dans un être. Nous, on est un être humain. Ça, c'est notre nature. Et on a une personnalité. On a une personne. Qui je suis, c'est Vincent, ou ça c'est le nom que mes parents m'ont donné, mais je suis une personne dans un être. Mais Dieu, ce qui est totalement mind-blowing pour nous, c'est qu'il y a trois personnes qui partagent le même être. Pas qui partagent, qui sont le même être. Puis ça, si je ne peux pas te l'expliquer.
Ça me fait penser, du coup, en fait, comme si c'était trois rôles, finalement.
Ils ont...
Comme si Vincent, c'est le pasteur, mais c'est aussi le père de son enfant. Et pourtant, c'est un seul Vincent, mais il a plusieurs choses.
Oui, c'est juste que la Bible, ça, on s'approche de ce que la Bible montre, sauf que la Bible est un petit peu plus mélangeante encore pour nous, parce que moi, pendant que je fais mon rôle de pasteur, je ne fais pas mon rôle de père. Ouais. Puis le Saint-Esprit, les trois sont jamais exclus dans tout ce qu'ils font. T'sais, tu comprends? Donc, c'est pas vrai que, mettons, le Père, c'est le simple... On voit que le Père, c'est le créateur de toutes choses, mais on voit que Jésus-Christ, c'est le créateur de toutes choses, puis que l'Esprit aussi. Donc, on voit que les trois sont toujours ensemble quand ils font quelque chose, mais que la Bible nous présente des fois que c'est plus axé sur un. Mais tu sais, comme, c'est pas comprenable. On va en parler plus en détail. On a bien des chapitres là-dessus. Mais tout ça pour dire que, tu vois, même dans la Trinité, la Bible nous semble présenter que Dieu est uni et pas fait de parties. Il n'est pas fait de trois parties, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, je suis étonné que... Je me doutais que la question peut-être de la Trinité allait venir. Je pensais qu'une autre question allait plus venir avant ça. C'est pour ça que j'avais mis une note. Puis c'est la question, mais OK, mais si Dieu n'a pas de part, qu'est-ce qu'on fait de Jésus-Christ qui a un corps, qui a des parties? Je pensais que vous alliez poser cette question-là. Moi, je me la suis posée, donc je lui ai répondu. Fait que, on va lire la note. C'est écrit dans la note en bleu. Bien que Jésus-Christ possède désormais un corps physique en tant que Dieu-homme, et qu'on pourrait être tenté d'affirmer que Dieu est donc composé de plusieurs parties, il ne faut cependant pas croire que Jésus est un mix entre la nature divine et la nature humaine. Christ détient parfaitement les deux natures sans qu'elles soient mélangées. Sa nature divine n'est pas humanisée, puis sa nature humaine n'est pas divinisée. Ça veut dire que le mystère, c'est comme la Trinité. Le mystère dans la personne du Christ, c'est que la Bible nous présente que les deux natures habitent pleinement en lui, mais pas de façon mixte. C'est pas genre un mix entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. C'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre encore parce que nous, on a une nature avec une personne. Jésus-Christ, lui, il a une personne en plus d'être Trinité, mais il y a deux natures dans la personne de Jésus-Christ. Mais la Bible nous présente clairement que les deux ne se mélangent pas. On va le voir dans la doctrine du Christ. Mais c'est ça que je dis, il n'est pas un humain devenu divin. Puis il n'est pas un divin que tout d'un coup, il est moins divin. Puis c'est comme un mix entre les deux. C'est pas un mi-homme, mi-dieu, là. Il est totalement Dieu, puis totalement homme. Puis sa nature divine, elle reste la même nature divine que le Père et le Saint-Esprit. Puis dans cette nature divine-là, il n'y a pas de partie. Le Père n'a encore pas de corps, l'Esprit n'a encore pas de corps, Jésus-Christ n'avait pas de corps avant de s'incarner. Puis dans ce sens-là, oui, on peut dire que l'homme Jésus-Christ est fait de partie comme nous, on est fait de partie, mais pas sa nature divine. C'est de la théologie, mais ça nous empêche de faire des hérésies, de faire des erreurs doctrinales, comme justement de venir dire que Jésus-Christ, c'est comme un mix entre Dieu et les hommes. C'est vraiment pas comme ça que la Bible nous le présente. S'il serait un mix entre Dieu et les hommes, il ne serait pas Dieu, il ne pourrait pas nous sauver. S'il serait un mix entre Dieu et les hommes, il ne serait pas un vrai homme, il ne pourrait pas pardonner pour nos péchés, le sacrifice n'aurait pas valu. Ouais. Donc, c'est pour ça que je disais par rapport au fait que Dieu n'a pas de partie, que c'était difficile de parler du caractère de Dieu dans une étude parce que quand on utilise une expression comme les attributs de Dieu, ça peut laisser croire qu'on parle d'une partie de Dieu. On parle Dieu est juste, Dieu est amour. Tu sais, quand on divise, nous, pour l'étude, on va parler une fois Dieu est amour, Dieu est juste. Puis c'est comme si on voirait Dieu là, fait de parties. Mais on ne veut pas voir ça comme ça. Mais on n'a pas le choix d'adresser ça comme ça parce que sinon, on n'a pas de concept whatsoever de comment parler de Dieu. On n'a pas le choix d'en parler comme ça. Comme si Dieu, il serait formé de plusieurs attributs, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui décident plutôt de dire attributs, de dire les perfections de Dieu. On va parler de la perfection de Dieu, on va parler de sa perfection d'amour, de sa perfection de justice, de sa perfection d'éternité. C'est un mot qui est dérivé d'un mot grec « aretos », qui est dans 1 Pierre 2,9, un passage que vous connaissez. 1 Pierre 2,9, « afin que vous annonciez les vertus ». Le mot « vertu », là, le mot en anglais, c'est « excellencies », les excellences de Dieu, ou ses vertus, comme en français dans la plupart des versions. C'est le mot qu'eux autres ont pris. Le mot perfection, il dérive de là. Pour plusieurs, donc, quand on parle du caractère de Dieu, pour eux, ça convient mieux de parler de ses perfections que de ses attributs, parce que d'utiliser l'expression les perfections de Dieu, ça précise que chacune des caractéristiques de Dieu sont parfaites et définit tout ce que Dieu est, selon eux. Fait que pour eux, d'utiliser le mot perfection, ça porte moins confusion que attributs. Est-ce que vous comprenez pourquoi eux autres ils choisissent les mots? Je viens de me rappeler que tu avais une question. OK. Le mot qui va en bas, c'est que les caractéristiques de Dieu sont parfaites et caractérisent qui Dieu est dans son entièreté. C'est pour ça que les gens utilisent plus le mot perfection. Moi, j'aime le mot perfection. Habituellement, j'utilise le mot perfection plus qu'attributs. Mais je vais vous dire pourquoi on va quand même utiliser le mot attribut. John MacArthur et Richard Mayhew, qui ont écrit la théologie systématique blanche, que je pense qu'il y a que de personnes qui l'ont dans l'Assemblée. Non, toi, tu l'as? Vous deux, vous l'avez? Ouais. OK. En tout cas, c'est une théologie systématique en français, si jamais vous êtes intéressé. Ils écrivent ça quand ils parlent justement des... Eux utilisent le mot perfection, puis ils écrivent ça. Alors que Dieu est éternellement, infiniment et complètement toutes ses perfections, les humains ne se concentrent consciemment que sur un attribut à un moment donné dans l'Écriture. Ce point unique de focalisation provient du fait que Dieu condescend, s'humilie, à se révéler dans l'Écriture à des êtres finis. Mais même lorsqu'il se révèle dans le temps comme l'une de ses perfections, il est tout de même pleinement et activement toutes ses autres perfections. En conséquence, lorsque Dieu révèle une perfection particulière à un événement ou une déclaration de l'Écriture, il insiste sur cette perfection dans ce contexte spécifique sans pour autant exclure les autres perfections ou les autres attributs. Grosso modo, c'est que oui, des fois, la Bible se présente comme, justement, on l'a vu tantôt, Dieu est amour. Puis Dieu se présente comme s'il serait une chose à un moment donné où là, Dieu manifeste, où il est juste là, où il exerce sa colère là. Puis nous, c'est juste que si Dieu ne ferait pas ça, on ne pourrait juste pas imaginer essayer d'étudier Dieu puis de comprendre Dieu sans le définir en, quasiment en partie. Essayer, on ne peut pas penser tout le temps à Dieu dans son entièreté comme, genre, ah, OK, Dieu est juste mot saint, tout le temps en même temps. C'est impossible pour notre tête. C'est juste impossible. Puis Dieu, il sait, il nous a créé, c'est fini. Fait que quand il se manifeste, oui, des fois, il manifeste juste une facette de qui qu'il est. Mais ça ne veut pas dire que quand il manifeste une facette de qui qu'il est, qu'il cesse d'être. Tu sais, souvent, c'est à cause que moi, j'étais comme ça au début. On pense que quand Dieu manifeste sa justice, mais que c'est pas, il n'est pas amour quand il fait ça. Mais au contraire, la Bible nous présente que c'est un acte d'amour même que de juger puis d'haïr le mal. Si Dieu ne ferait pas ça, il ne serait pas amour. Fait que tout est tout le temps toujours ensemble quand Dieu fait toutes choses. OK? Dans notre étude, on va interchanger les termes attribut puis perfection sans faire de différence. À chaque fois qu'on dirait attribut ou perfection, on se réfère à la même chose. Mais je vais quand même utiliser le mot plus attribut pour la simple raison que c'est le mot le plus souvent utilisé dans les discussions, dans tous les milieux évangéliques. Puis, fait que je veux pas qu'on. Tu sais, des fois, c'est moins utile d'avoir un mot qui définit mieux quand que personne ne te comprend quand tu parles de ce mot-là. Aussi longtemps que quand on utilise attribut, on ne veut pas dire une partie de Dieu, qu'on veut dire un aspect de l'entièreté de la nature de Dieu, on se comprend, puis on parle, on divise pas Dieu en parties. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je vous ai perdu jusqu'à là? Linda, ça va? OK, all right. Donc, on est rendu à donner une définition. On n'aura jamais le temps. Ah, peut-être. Une définition du mot attribut qu'on va utiliser. C'est le temps là, de le dire. J'essaie toujours de garder des définitions simples. Les attributs de Dieu sont les Les attributs de Dieu sont les caractéristiques essentielles de sa nature. Puis je vais vous expliquer les deux termes. Les attributs de Dieu sont les caractéristiques essentielles. Donc les caractéristiques essentielles de Dieu. OK? C'est juste pour la caméra vu que je vais savoir où couper. Pourquoi je dis caractéristique, on parle de qui est Dieu, de qui qu'il est dans sa nature. Puis quand je dis essentiel, c'est juste pour qu'on comprenne que si tu enlèves, ou si tu divises, ou si tu diminues une de ces parties-là, Dieu n'est plus Dieu, selon la Bible. Dieu n'est plus tout ce qu'il est tout le temps. Si Dieu, à un moment donné, cesse d'être amour, parce que Dieu serait fait de parties, puis quand il manifesterait une autre partie, il cesserait d'être l'autre partie, bien Dieu ne serait plus Dieu, parce que Dieu, d'être Dieu, c'est d'être tout le temps Dieu, tout le temps. OK? Dieu est Dieu. Fait que c'est caractéristique essentielle. C'est-à-dire que ça fait toujours essentiellement partir de lui, partie de sa nature. Mais avant de définir de façon spécifique les attributs de Dieu ou les perfections de Dieu, il faut encore dire quelques mots sur leur classification. Parce que là, on n'a pas parlé de comment on va approcher ça. Le gros titre, c'était les attributs incommunicables. Fait que là, on va voir d'où on sort ça, ce mot-là. Lorsqu'on aborde la question du caractère de Dieu, on se rend compte qu'il n'est pas possible de traiter en un seul point tout ce que la Bible dit. Tout ce que la Bible nous enseigne sur le sujet de Dieu. C'est pourquoi on utilise une méthode de classification des différents aspects du caractère de Dieu. Ça a pour but, même si c'est une méthode humaine, ça a pour but, puis je l'ai écrit, de nous aider. Ça a pour but de nous aider. Cela a pour but de nous aider à ordonner notre étude, ordonner notre étude afin d'éviter que l'on traite les attributs divins d'une manière qui prête à confusion ou encore d'insister d'une façon exagérée sur certains attributs au détriment des autres. Ce que je veux dire par là, je vais donner un exemple. Ben, en fait, non, je l'ai dit. L'exemple de ce que je veux dire, on veut se donner une méthode d'approcher le caractère de Dieu pour éviter des erreurs. Puis là, on va voir, j'ai donné un exemple d'erreur, que si on ferait ça de façon désordonnée, qu'on ne se donnerait pas d'étapes, par là qu'on s'en va, regardez ce que ça pourrait faire. Voici un exemple de la confusion que pourrait amener cette étude sans avoir une approche ordonnée. Imaginez que nous étudions l'indépendance et l'infinitude de Dieu, et qu'ainsi nous arrivions à la conviction que Dieu n'a vraiment besoin de personne et qu'il est bien au-dessus de notre compréhension. Si on en reste là, sans étudier en parallèle le fait que Dieu est aussi un être personnel et relationnel, on pourrait facilement croire que ce Dieu si infini et incompréhensible ne se révèle tout simplement pas à nous et n'a pas besoin et ne veut pas de relation avec des êtres aussi finis et petits que nous. Puis ça, c'est faux. Comme si on fait de l'emphase, on fait juste voir, on met jamais en perspective, ou par exemple, on va voir que Dieu ne change pas, l'impassibilité de Dieu ou l'immuabilité de Dieu. On va voir, c'est le premier qu'on va voir la semaine prochaine. Si on fait juste étudier ça, puis en même temps, on ne va pas dans la Bible pour se dire, est-ce que ça veut dire que Dieu ne réagit jamais à des circonstances ou que Dieu n'agit pas différemment à différentes circonstances? On peut avoir une fausse idée. Ça, de juste se concentrer sur un attribut, ça peut nous emmener des fausses idées sur qui est Dieu. C'est pour ça qu'on veut se donner une façon ordonnée. OK, on va étudier tel attribut, mais en même temps, on va toujours contrebalancer avec quelque chose d'autre que la Bible montre sur cet attribut-là. Est-ce que vous me suivez ou pas? Non, je vous ai perdu, hein? Non? Linda, je t'ai perdu? Non, ouais, si tu ne sais pas si je t'ai perdu, c'est que je t'ai perdu. Un exemple. Si, mettons, quand on va étudier la souveraineté de Dieu, sur le fait que Dieu, depuis toute éternité, a tout décrété depuis toute éternité, puis il n'y a rien qui se passe si Dieu ne l'a pas décrété. On va étudier ça en profondeur. Si on n'étudie pas en même temps ce que la Bible présente sur comment Dieu crée l'homme d'une façon responsable et libre, tout en étant dans sa souveraineté, on peut arriver à des mauvaises conclusions. C'est-à-dire qu'on peut avoir une confusion au lieu de comprendre mieux Dieu. Puis pour s'éviter ça, on veut se donner une méthode où on va commencer par regarder ces attributs-là de Dieu, parce que c'est sage. Puis ensuite de ça, on va regarder ces attributs-là de Dieu pour venir nous aider à mieux comprendre. Est-ce que tu comprends? C'est juste une méthode pour nous aider à ne pas se mêler. Même si je t'ai mêlé en disant la méthode qu'on a utilisée pour ne pas se mêler. Est-ce qu'il y avait une question? OK. Donc, on a page 130 en bas. Au fil, on parle de la méthode. Okay? Au fil des siècles, plusieurs méthodes ont été utilisées pour classer les attributs de Dieu d'une manière à aider à la compréhension. Dans notre étude, on va adopter la classification la plus souvent utilisée de nos jours, qui est les attributs. On divise en deux grandes catégories les attributs de Dieu. Les attributs incommunicables et les attributs communicables de Dieu. On va définir ça. Les attributs incommunicables puis les attributs communicables. De communiquer puis incommuniquer ou incommunicable. En tout cas, les attributs incommunicables, la première définition. Ça, c'est le chapitre qu'on est dedans. Les caractéristiques propres à Dieu seul. C'est ça, les attributs incommunicables. Les caractéristiques ou les attributs propres à Dieu seul. Ouais, c'est ça, exactement. Qu'il ne partage ou qu'il ne communique pas avec les êtres humains. Communiquer dans le sens qu'il leur donne d'exercer une facette de cet attribut-là. S-E-U-L, oui, c'est ça. Des exemples de ces attributs-là, l'auto-existence de Dieu, la simplicité, comme qu'on a vu tantôt, que Dieu n'est pas fait de partie, ou l'immensité, ou l'omniprésence, c'est la même chose. L'omniprésence de Dieu, c'est des choses que Dieu n'a pas communiqué aux êtres humains d'abord dans leur nature, d'aucune façon. Ça, c'est les attributs qu'on appelle incommunicables. L'autre division qu'on va voir, c'est les attributs communicable, qui est les caractéristiques de Dieu qui sont partiellement transférables aux êtres humains. C'est le mot que là, c'est aux êtres humains. Les caractéristiques de Dieu qui sont partiellement transférables aux êtres humains, qu'ils partagent ou qu'ils leur communiquent, dans le sens qu'ils leur donnent de pouvoir exercer ça d'une manière. Par exemple, sa bonté, sa justice, son amour. Dans un sens, on est des êtres qui peuvent exercer ces choses-là. On ne peut pas exercer l'omniprésence. On peut exercer un certain amour. Puis pour nous aider à bien comprendre cette distinction, prenons comme exemple l'éternité de Dieu, le fait qu'il a toujours existé, ou l'immuabilité de Dieu, qu'il ne change jamais. Ces attributs-là sont clairement que des caractéristiques qui décrivent Dieu. Les êtres humains ont été créés, puis on change constamment. Vous voyez, ce n'est pas des choses qui peuvent nous décrire, ça. Ils sont incommunicables dans ce sens-là. Mais lorsqu'on parle de l'amour ou de la connaissance de Dieu, ce sont des caractéristiques qu'il a voulu que les êtres humains expérimentent aussi. On a la capacité d'aimer, puis on peut avoir de la connaissance. Mais il y a une mise en garde contre toute classification. On va finir avec ça. On va pas faire le dernier point. Hein? Oui, je fais le 1A. La mise en garde avec les classifications. Toutefois, toute classification résulte d'une observation humaine. C'est pourquoi aucune classification ne doit être acceptée aveuglément. Par exemple, la classification des attributs de Dieu en deux catégories principales, incommunicables et communicables, est utile. La plupart des gens ont fait naturellement cette distinction-là. Tu sais, comme Yolande, naturellement, elle a sorti, « Ah oui, mais Dieu comme ça, on a une présence, on a une science. » Tu as sorti ça tout de suite. Naturellement, on sait que, même dans nos prières, on demande à Dieu, « Dieu, fais que j'aime plus, fais que je sois plus pieux, plus juste. » Mais on ne demande jamais à Dieu, « Dieu, fais que je sois plus indépendant, fais que je sois plus éternel, fais que je sois plus omniprésent. » On ne demande pas ces choses-là à Dieu. Fait inconsciemment, naturellement, on fait ces deux distinctions-là. C'est pour ça que souvent, les théologiens ont décidé de faire cette approche-là, parce que c'est naturel à notre conception de qui est Dieu. Mais on se rend compte assez rapidement que cette méthode n'est pas parfaite. Puis il faut toujours être conscient de ne pas s'enfermer dans une méthode. Comme si maintenant on voirait juste Dieu comme il y a deux catégories, puis qu'il y en a un qu'on ne peut jamais expérimenter, puis l'autre on peut expérimenter. En vrai, il n'y a aucun attribut de Dieu, des attributs divins, qui est entièrement communicable. Il n'y a aucun des même son amour qui est d'une façon totale et communiqué à l'homme. Puis il n'y a aussi aucun attribut divin qui est vraiment incommunicable. Puis je vais m'expliquer. Deux exemples. Concernant encore l'attribut incommunicable, qu'on appelle, nous, incommunicable, de l'immuabilité de Dieu, le fait qu'il ne change jamais. On pourrait dire, c'est comme... je vais lire à la place, comme vous l'avez dit. On peut en avoir une compréhension limitée. On peut, c'est comme, c'est pas complètement étranger à nous, le concept du fait que Dieu ne change jamais. C'est pas quelque chose que, comme, on n'a aucune idée de quoi qu'il parle quand il parle du fait qu'il ne change jamais. On peut avoir une compréhension limitée parce qu'on sait par expérience ce que ça signifie avoir des pensées ou des principes ou un comportement qui est stable. Où on expérimente, par exemple, dans la nature, on voit une certaine stabilité dans le fait que le soleil il se lève toujours puis il se couche toujours. Toujours, toujours. Dans l'expérience de notre vie, on voit ça. Ça n'arrête jamais. C'est toujours la même chose. C'est stable, stable, stable. Donc, même si l'immuabilité de Dieu, c'est un attribut qu'on, nous, on nomme... J'ai écrit communicable, mais incommunicable... On expérimente quand même un certain reflet de cet attribut-là. Parce que si on n'expérimenterait pas du tout un reflet de ça, on pourrait avoir aucune idée de qu'est-ce que Dieu dit. Oui, on compare par négation souvent. Comme par exemple l'éternité de Dieu, on pourrait dire que nous, c'est pas communicable à nous, puis c'est vrai. Dieu, nous, OK, on va vivre pour l'éternité, mais on n'est pas dans l'éternité passée. Mais on peut comprendre quelque chose de l'éternité de Dieu parce que on a, nous les êtres humains, contrairement à tous les autres êtres, on peut se projeter dans le passé, puis on peut se projeter dans le futur. On a cette capacité-là que Dieu nous a donnée d'être capable d'aller dans notre passé, puis de penser à tout ça, puis on peut aussi imaginer notre futur. Puis, à quelque part, on est capable d'être à différents moments dans le temps, tu sais, mais c'est dans une façon très limitée, où on peut penser à l'éternité en concept de pas de temps. Tu sais, on a un concept de temps, fait que quand on dit... Ah ben, pas de temps, c'est l'éternité. On peut réfléchir un peu à ça d'une façon très limitée. Donc, l'attribut de Dieu d'éternité n'est pas comme incommunicable dans le sens qu'elle est complètement étrangère à nous. Vous comprenez? Ce que je veux dire par là, c'est quand on parle des deux attributs de Dieu, on ne veut pas dire qu'ils s'entremêlent les deux. On peut pas, nous, ça nous aide à comprendre les classer là puis là, mais on ne peut pas dire que Dieu est divisé en deux sortes d'attributs. Puis ceux-là, on ne peut jamais l'expérimenter, puis ceux-là, on peut toujours l'expérimenter de façon pleine. Par exemple, les attributs communicables. Oui, Dieu, d'une certaine façon, nous communique son amour aux êtres humains. On peut aimer, puis on peut haïr. On a cette capacité-là. On ne le fait pas tout le temps, rarement parfait, mais on a cette capacité-là. Puis, mais par exemple, les êtres humains vont expérimenter l'amour à différents, de différentes manières, à différents niveaux, mais jamais, on va pleinement expérimenter puis connaître l'amour que, par exemple, Dieu a pour la Trinité ou qu'il a pour son peuple d'une façon parfaite. Là, on ne va jamais avoir cet amour-là en nous. Nous, on est récipiendaires de cet amour-là, mais on ne le fait pas, même si c'est un attribut communicable, dans un sens, c'est incommunicable dans sa totalité. Est-ce que vous comprenez que les deux, tu sais, on les classe, là, on les sépare, mais on ne veut pas s'enfermer dans tes catégories là, strictes. Samuel, tu comprends, mais les autres, je pense peut-être pas. Oui? OK. Ce n'est pas des parties, mais aussi, c'est que je ne veux pas que maintenant... C'est ça, puis je ne veux pas maintenant qu'à chaque fois qu'on pense de Dieu, on pense juste comme, ah, les attributs communicables, les attributs incommunicables. Moi, je peux expérimenter les attributs communicables, puis pas les attributs incommunicables. C'est pas comme ça que la Bible présente Dieu. Ouais. Merci, c'est bon. Au moins, j'ai un point de gagné.
Mais quand on va mourir, on va connaître.
On va le connaître parfaitement, mais je pense pas qu'on va pouvoir le comprendre parfait. Je suis pas mal sûr. Non, on ne sera pas Dieu. Ah ouais, on va comprendre beaucoup. On va voir beaucoup. On va adorer beaucoup. Puis, c'est ça. Donc, juste avant, on ne fera pas le point 2, mais nous utiliserons donc ces deux catégories d'attributs afin de nous guider de manière ordonnée dans notre étude, tout en demeurant conscient que ce ne sont pas des classifications absolument précises et qu'en réalité, les deux catégories se chevauchent.